Bon, bah, bonjour à tous pour cette interro surprise.
Bonjour.
Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir immortels ici, c'est bien. Alors, on va vous dire comment faire, comment essayer d'y arriver. Et puis, comme on n'a pas la réponse, en fait, vous nous posiez plein de questions. Donc, n'hésitez pas à nous interrompre. Non, peut-être pas à nous interrompre, mais à nous faire signe quand vous voulez poser une question et le faire le plus interactif possible. Donc, on va peut-être se présenter d'abord. Donc, Fabien, tu es auteur de BD, c'est ça ?
Oui, comme tu l'as découvert il y a 5 minutes. On se connaît, on est des vrais, vrais vieux potes d'il y a 5 minutes au bar. Oui, donc Fabien Vellman, scénariste de bande dessinée, essentiellement connu pour des séries comme Seul, plutôt pour les enfants, enfin tout public, plutôt pour les enfants, la reprise de Spirou. Et puis pour le public des Utopiales, pour des livres de science-fiction comme Les derniers jours d'un immortel, dessiné par Gwen de Bonneval, ici présent, soit dit en passant.
Super.
Et pour Des lendemains sans nuages, qui sont avec Ralph Meyer et Bruno Gazzotti, qui sont deux livres qui avaient eu des prix aux Utopiales, et récemment Satanie avec les Carrascouettes, qui est aussi en lice, mais face à de très 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 bons albums, donc je m'attends à d'autres concurrents qui vont finir à la fin. Et donc j'ai traité de l'immortalité essentiellement dans deux œuvres, ben, Les derniers jours d'un immortel, comme son nom l'indique, qui est donc de la science-fiction assumée comme telle, même si elle est dans un genre qui est sans doute plus théâtral que la science-fiction de space opéra classique. Et puis dans la série Seul, où il est quand même question d'immortalité d'une certaine manière, même si là je serais obligé de marcher sur des œufs pour pas trop spoiler pour d'éventuelles personnes qui connaîtraient pas l'histoire. Mais je pense que je vais tout spoiler en fait. Puis c'est pas très grave, allez quoi. Et où il sera effectivement question d'immortalité aussi. Et toi, dis donc, comment se fait que tu nous parles d'immortalité ce matin ?
Alors moi je m'appelle Raphaël. Dans la vraie vie, je suis physicien au CERN en gros. Je fais la physique des particules, mais c'est pas ça qui va nous rendre immortels. Enfin, je crois pas.
Il s'agirait un petit peu de bosser maintenant ?
Ouais, ouais. Et donc j'ai commis deux romans d'anticipation qui s'appellent Thinking Eternity, Eternity et Eternity Incorporated, dans lesquels le fond, le prétexte initial, tout ce qui est derrière le bouquin depuis le début, c'est l'immortalité en fait, la conception d'une immortalité sur laquelle on reviendra. Et ben voilà en gros pourquoi je vais parler d'immortalité.
Or donc, nous avions commencé à réfléchir ensemble par mail, parce que c'est l'avantage de ne pas avoir de modérateur, c'est qu'on doit se débrouiller, sur les 2-3 thématiques qui nous semblaient importantes sur l'immortalité. Enfin, ceci étant dit, est-ce qu'il y avait, vous, des choses par lesquelles vous vouliez commencer ? Sait-on jamais ? C'est rarement en début de conférence que ça se passe.
Là, vous voyez combien on a préparé. Hein.
Oui, mais on sait... Ah, si, là-bas, au fond.
Là-bas.
Oui.
Désolé pour le... Pour ceux qui passent les micros, on vous a pris de court un peu.
L'immortalité, est-ce que ça peut durer plus longtemps que l'éternité ?
Ah, eh bien, je vous remercie tous pour cette... On va y aller. Ce qui est sûr, c'est qu'une conférence qui commence par cette question va être extrêmement longue en termes de ressenti. Alors, ceci étant dit, ça va m'amener à parler d'une forme d'immortalité, qui est effectivement, ou de sentiment d'éternité, qui est vraiment celle du non pas d'une immortalité, disons, pratique, qui serait celle de la science-fiction, à savoir un corps qui est immortel sur X années, mais le sentiment d'immortalité ou une éternité qui serait subjective. Il s'avère que dans Seul, c'est une des formes d'immortalité qui est évoquée. Alors là encore, je vais, désolé pour ceux qui connaissent la série, désolé pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais essayer de pas trop en dire. En très rapide, dans la série Seul, il s'agit d'enfants qui se retrouvent livrés à eux-mêmes dans une ville. Tout le monde a disparu, sauf eux.
Ils sont seuls.
Ils sont seuls. Oui, ceci expliquant une partie du titre. Et il s'avère que, donc, sans trop en dire, ces enfants vont se retrouver dans une forme de dimension dans laquelle ils vont pouvoir mourir puis revenir. Enfin, en gros, un petit peu comme dans Un jour sans fin. Si ce n'est que c'est pas la même journée, mais donc c'est quand même des enfants qui sont amenés à mourir un certain nombre de fois. Ça arrive un certain nombre de fois dans la série. Il s'avère qu'une des théories d'un des enfants, c'est pas forcément la réalité telle qu'elle est censée être dans la BD. En fait, je donne pas les clés de ça aux lecteurs. J'ai envie aussi que les lecteurs puissent se demander ce qu'ils ont envie que ce soit. C'est une des théories dont je suis assez content, mais qui, à mon avis, a peut-être déjà été évoquée en science-fiction. D'ailleurs, du coup, je serais preneur de ceux qui connaissent ça. c'est de dire que donc il est question beaucoup de la thématique du paradis, de l'enfer, de la vie après la mort. La théorie d'un des enfants qui s'appelle Anton, et qu'en fait c'est une vie éternelle avant la mort. Et il évoque cette théorie suivante, c'est que quand vous savez quand on rêve et que d'un seul coup une sonnerie est intégrée dans le rêve parce que c'est tiens on m'a appelé au téléphone, j'ai répondu, j'ai dû vivre une aventure incroyable qui a duré j'ai l'impression 5 semaines et puis je me réveille et c'est mon téléphone qui est en train de sonner et j'ai la surprise de me dire comment ça se fait que j'ai fait un rêve aussi long basé sur quelque chose que j'ai entendu en une fraction de seconde. Donc on voit qu'un rêve est capable de se cristalliser. Entre autres, hein, des fois le rêve correspond à des règles qui sont beaucoup plus complexes, mais un rêve peut se cristalliser aussi sur un micro-événement qui va être, je sais pas, une porte qui claque quelque part, un chien qui aboie, et puis on se crée toute une thématique qui nous donne l'impression quand même d'une durée subjective extrêmement longue. Inversement, on le disait ici en forme de blague, mais si je ne sais pas répondre à une question, à une interro surprise, et que mon prof me regarde avec un air lourd, ça donne effectivement l'impression d'une distorsion du temps extrêmement longue, parce que je me dis merde, qu'est-ce que je fous là, tout le monde me regarde, je ne sais pas quoi répondre. Et si au contraire on passe un super bon moment, le temps va filer extrêmement vite. Donc cette notion de subjectivité du temps amène Anton, ou m'amène par sa bouche, à inventer une notion qui est la quatrième dimension et demie, puisque la quatrième dimension serait communément le temps. La quatrième dimension et demie serait la dimension cachée à l'intérieur du temps, c'est-à-dire qu'il faudrait s'imaginer qu'il n'y a pas juste un axe qui serait linéaire et qui serait le temps, comme on le représente en général, mais il y a aussi, comme il y a une abscisse, il y a une ordonnée, et qu'il y aurait aussi une courbe qui permettrait d'imaginer que dans le temps objectif qui est en train de passer, une seconde, une seconde, une seconde, il peut y avoir un moment où oups, ça s'allonge en temps subjectif, ça s'allonge, et puis ça reprend le cours. Cette notion est appelée quatrième dimension et demie aussi parce que ça sonnait bien dans la bouche d'un enfant, et ça pète, et que moi, faire de l'argent, c'est mon autre métier tout de même. Ainsi que l'immortalité qu'on va vous vendre à la fin de cette conférence. J'essaie d'aller un peu plus...
Pas cher. Pas cher.
Surtout pas très cher. Donc, pour dire qu'une des façons dont on peut traiter cette notion d'immortalité, et c'est le cas ici dans Sol, c'est qu'en réalité, entre deux secondes, on pourrait tout à fait imaginer que se cache l'immortalité. Donc elle n'est pas physique, elle est uniquement mentale, subjective, et elle se rapproche un peu de ce paradoxe dont je m'étais dit que j'allais le potasser et retrouver le nom, mais quelqu'un ici le connaît. Celui de la tortue de... Bon d'accord, on a affaire à une...
C'est une interro surprise, hein, vous n'avez pas bossé.
De la tortue d'Achille, le paradoxe de la tortue d'Achille. Ou
un point là-bas.
Si, oui, mais ça se trouve, il dit n'importe quoi. Non, c'est vrai. Oui, c'est ça. Donc, le fameux criquet de Théodore. Ce paradoxe, qui est un vieux paradoxe de philosophie grecque, ressemble assez à ce qu'on est en train de dire, à savoir, imaginons que Achille soit en train de courir vers une tortue. Il en est à 10 mètres, il est à fond, mais il reste 10 mètres. Maintenant, je coupe en deux la distance qui le sépare de la tortue. Il arrive à 5 mètres, je peux encore couper en deux. Si le temps est une notion quasi abstraite, je peux couper en deux la distance qui le sépare de la tortue, on arrive à 2,50 m, on le fait à l'infini, et en réalité, Achille ne touche jamais cette putain de tortue que pourtant il aimerait bien choper. Mais non, parce qu'en fait, on peut, intellectuellement parlant, imaginer qu'on segmente le temps à l'infini. À chaque fois, on le coupe en deux, on le coupe en deux. Ben, ça serait ce qui est évoqué dans Sol. On pourrait ne jamais complètement atteindre une seconde, un instant T, puisqu'on couperait le temps à chaque fois à l'infini, c'est-à-dire que la pensée subjective partirait de manière exponentielle, ce qui finalement est une des formes d'immortalité qu'on peut envisager, mais on peut en imaginer d'autres.
Tout à fait, oui. Et justement, quand tu parlais d'éternité et d'immortalité, on fait parfois la distinction entre les gens qui sont immortels et qui peuvent vraiment pas mourir, c'est-à-dire qu'on peut les tabasser tout ce qu'on veut, ils meurent pas. Donc ceux-là, ils sont, je crois qu'on les appelle parfois des plutôt éternels que immortels. Et puis ceux qui peuvent
notre petit jargon d'immortel,
ouais, c'est ça. Ouais. Et ceux qui peuvent pas vieillir en fait, donc eux, ils ont une immortalité, qu'ils soient biologiques ou autres d'ailleurs, mais ils peuvent pas vieillir, ils vieillissent pas. Mais on peut les tuer. Et donc ça fait une différence. Enfin, c'est une classification qu'on peut faire et qui, à mon avis, change fondamentalement le statut d'un immortel. C'est pas du tout pareil de pouvoir mourir et de pas pouvoir mourir, je pense, en termes de violence, quoi. Alors moi j'ai le même problème que toi, c'est que c'est assez difficile de parler de mes bouquins sans spoiler, donc je crois que je vais y aller tranquillement. Et c'est marrant ce que tu disais sur les échelles de temps, parce qu'il y a donc moi mes immortels, c'est ce qu'on appelle l'immortalité numérique, c'est-à-dire que c'est des gens qui se transfèrent dans un ordinateur. Donc ils abandonnent leur corps, c'est pas une immortalité du corps, c'est pas une immortalité biologique, alors que pour toi c'est plutôt ça. dans tes deux bouquins. Bon, remarque, peut-être pas c'est pour seul, ouais.
C'est plus ambigu sur les derniers jours d'Immortel, ouais, mais ouais, j'y reviendrai.
Et donc moi, il se transfère dans un ordinateur. Et justement, c'est marrant ce que tu dis sur le temps qui passe, parce que précisément, donc ils sont dans une machine qui a une cadence, quoi, un processeur avec des gigahertz, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Et ils jouent vachement avec ça. C'est-à-dire que quand ils ont besoin de prendre de l'avance par rapport à nous autres pauvres mortels, ils accélèrent la cadence de l'ordinateur. Et c'est comme ça qu'ils nous baissent la gueule. À la fin. Essentiellement, ils prennent de l'avance sur nous en jouant avec. Donc leur immortalité, elle est justement un peu comme ce que tu disais, elle est réfugiée, enfin en tout cas elle est inscrite dans un temps qui est pas le nôtre en fait. Ils accélèrent le temps.
Comme un repli dans le temps.
Un peu. Et ils jouent avec ça. Et dans le troisième opus que je suis en train d'écrire, il y en a un justement qui, pour être peinard, il comprend qu'en fait ça sert pas à grand chose d'accélérer la bécane. Et donc au contraire il a ralenti, il devient très contemplatif et tout ça. Donc ça c'est un point effectivement important, comment le temps passe pour un immortel, ça doit être assez intéressant. Et l'autre truc que m'inspirait ta quatrième dimension et demie, c'est qu'il y a des théories physiques, hein, ce qu'on appelle les théories d'échelle, quoi, où dans lequel en plus des dimensions standards on rajoute des dimensions qui sont de l'échelle à laquelle on regarde les choses. Je crois que ça se fait beaucoup pour les échelles spatiales, je suis pas sûr que ça se fasse beaucoup pour l'échelle du temps, mais a priori pourquoi pas. Et donc en plus du temps, compte fondamentalement dans les processus physiques qu'on regarde, l'échelle de temps à laquelle on les regarde.
Bah, en fait oui, c'est ce qu'on comprend un peu intuitivement si on imagine qu'on stoppe le temps ici comme dans le bullet time effect de Matrix, mais avec moins de balles, parce qu'on n'a pas les moyens. Mais imaginez que, oh, c'est très lent. Ben, on pourrait effectivement, d'ailleurs ça a dû être fait, et le nom va me revenir pour l'Oulipo, avec... le fait d'épuiser à un moment donné un endroit, un lieu pendant un moment donné le temps d'un roman, on pourrait tout à fait essayer d'explorer ce qu'il y a dans cette salle à un instant T qui est arrêté à l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait effectivement faire du micro, du macro, s'intéresser à chacun d'entre nous et finalement, il y aurait une infinité, il y aurait une éternité planquée dans un quart de seconde et à peine. Ce que d'ailleurs on retrouve dans certaines formes de sagesse asiatique ou dans ce qu'on appellera maintenant plus facilement la méditation en pleine conscience, ce genre de choses, où l'idée, elle est quand même justement d'accéder à ce qui serait une seconde d'éternité, alors qu'on sait très bien que pour nous autres communs des mortels, on n'a pas cette capacité d'arrêter le temps. Par contre, on a la capacité de s'intéresser en pleine conscience, c'est le terme qui est employé, par la façon dont on en parle maintenant, mais c'est vrai que pour la sagesse asiatique, c'est peut-être pas en pleine conscience, ce sera peut-être plutôt le zen, mais on peut essayer de s'intéresser à cet instant maintenant, qui est certes n'est pas complètement arrêtable, on peut pas arrêter cette seconde qui, mais on peut la savourer. Moi, je vous le fais vraiment en version pour les nuls, hein, je suis désolé de l'aborder un peu à la hache, mais en gros, tel que moi je perçois cette méditation ou ce zen, c'est on peut profiter de cette seconde, se dire elle est là, j'entends les sons, je ressens mon corps, etc. Et finalement, on touche à quelque chose qui serait un sentiment d'éternité ou d'immortalité, tout en sachant très pertinemment que ce n'est pas le cas. Et finalement, avec la SF, on peut l'aborder d'une manière qui est un peu plus ludique, parce que si on appelait effectivement nos romans zen, et puis c'est tout, on gagnera un peu moins aussi de public. Cette fois-ci, j'essaie de ne pas dire argent plus de 3 ou 4 fois dans mon intervention. Donc je ferme cette petite parenthèse-là. Donc ça veut dire que toi, c'est la manière dont ils deviennent immortels dans tes deux romans, c'est par le numérique.
Oui, c'est ça. Oui. C'est le. Il y a en gros deux. Je crois qu'il y a deux grandes catégories de façon de devenir immortel. Et puis les gens qui pensent au transhumanisme, c'est ça qu'ils explorent. Hein. Il y a cette façon-là, la façon de l'immortalité numérique, se transférer dans une matrice numérique. Et je pense qu'un des grands auteurs qui a traité ça, c'est Greg Egan dans La Cité des Permutants, à lire, très bien. Je l'ai pas lu moi, c'est pour ça que je le dis. Non, mais tout le monde m'a dit que mon idée, en fait, je l'avais piqué là. Heureusement, je l'avais pas lu, mais donc c'est ça. C'est vraiment l'idée dont on abandonne son corps et on se réfugie dans quelque chose d'autre. Alors, ça peut être juste un ordinateur, ça peut être un ordinateur avec un robot. On peut imaginer plein d'interfaces possibles entre l'esprit immortel qui est réfugié ailleurs et le monde extérieur. Mais c'est la première grande catégorie, je pense. Et la deuxième grande catégorie, c'est s'affranchir du vieillissement biologique, quoi. Et il y a plein de recherches qui sont faites là-dedans. Il y a même des organismes bon, ils sont pas nous, hein. Ils sont beaucoup plus simples que nous. Mais il y a des petites méduses qui sont essentiellement éternelles, quoi, qui meurent pas. Il y a l'axolotl. Vous connaissez l'axolotl, il est rigolo, hein. Mais il vieillit pas. Il meurt, mais il vieillit pas. Ouais. Ouais.
Ciao.
Ouais, c'est ça, ouais. Bon, allez, c'est l'heure, là. Je m'en vais. Et j'ai même lu, en préparant cette table ronde il y a une demi-heure, et donc j'ai pas eu le temps d'approfondir, mais il semblerait qu'il y ait même une maladie humaine dans laquelle il y a très peu de cas répertoriés. J'ai mentionné 4 sur Wikipédia.
En fait, voilà, c'est une Wii-conférence.
Voilà, exactement.
C'est un truc qui se prépare une demi-heure avant, et vous auriez pu la faire aussi.
Exactement. Vous lisez Wikipédia, c'est pareil. Et donc j'ai lu ça, je voudrais vérifier si quelqu'un a des infos, je suis preneur aussi, hein, mais il y aurait une maladie humaine, donc il y a des maladies où on vieillit plus vite, il y a des maladies où on vieillit moins vite, mais il y aurait une maladie humaine où essentiellement on vieillit pas, quoi.
Ça me... Ils appellent ça une maladie, c'est ça qui est intéressant.
Oui, je trouvais ça assez original.
Ça me fait penser à une lettre que j'ai reçue d'un gamin qui avait lu Seul et qui était très angoissé par la mort avant de le lire, ce qui pourrait paraître paradoxal. En général, on pourrait croire que c'est après avoir lu la BD que les enfants flippent, mais en fait c'est avant. Un enfant qui avait très très peur de la mort parce qu'un de ses gamins, un de ses potes de classe était mort très jeune. Donc il était un peu, voilà. Il me dit, grâce à la série, je suis guéri de ma peur de mourir, de la maladie qui est la peur de mourir. J'ai trouvé ça assez intéressant qu'on évoque la peur de mourir comme une maladie. Et ça rejoint un peu ce que tu dis sur le transhumanisme. C'est que ça touche quelque chose de très humain, de très enfantin. Quand je le dis, c'est pas pour me moquer de cet enfant, c'est pour dire qu'on a tous cette crainte-là. Qui est effectivement de voir la mort comme quelque chose qui serait de l'ordre du scandale absolu, enfin d'un scandale au sens philosophique du terme, et que justement on ne peut pas supporter. Comme une maladie, comme la déchéance, comme ceci. Et les
La vie, c'est une maladie, hein, c'est voilà, mal. Hein.
Bah, en tout cas, c'est un processus de déchéance, effectivement. Et les transhumanistes prétendent que ça vaudrait la peine d'aller à l'encontre de ça, ce qui est un vrai débat aussi, un vrai sujet, dont je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder tout de suite. Mais je rebondis aussi un peu sur... on évoquait comment on peut envisager des formes d'immortalité. Donc on l'a dit, ça peut être numérique, ça pourrait être purement mental, cérébral. Dans les derniers jours d'un immortel, avec Gwenaëlle, on s'est posé la question de justement quelle forme ça prendrait. Et en réalité, et là je vais rentrer plus dans un process d'écriture, on a préféré partir de... Et tu m'interromperas si je dis une grosse connerie, mais non. On a préféré partir de ce qu'on pensait être le désir humain, plutôt que de comment est-ce qu'on y accéderait. Et ce désir humain, on s'est dit justement, comme là je viens de l'évoquer avec ce que dira un enfant très spontanément, mais ce que je dirais moi à chaque fois que j'ai failli me faire écraser par un tram dans la rue, je fais genre, oh putain, non, je veux pas mourir. Enfin, c'est le premier truc qui vient à l'esprit. Je pourrais dire tout ce que je veux sur la sagesse zen, sur le fait que méditation.
Non, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est il est con ce mec.
Oui, c'est ça. Aussi, oui, c'est vrai. Mais le fait est que. Que je le veuille ou non, et même si je pense, et c'est un vrai débat, que sans doute la mort fait partie de ce qui donne une saveur à la vie, au moment où je m'apprête à risquer de mourir, j'y crois plus du tout. Enfin, j'ai envie de me raccrocher au truc en disant « Putain, non, j'ai menti ! J'ai menti à la conférence sur l'immortalité ! J'y croyais pas du tout !» Du moins, on voudrait un petit rab, quoi. Et donc ce truc-là, on s'est dit avec Gwenaëlle, il est là. Donc si on avait les moyens... On le ferait. En fait, c'est plus dans ce sens-là qu'on l'a fait. On n'est pas parti dans une anticipation de hard science qui dirait comment est-ce qu'on pourrait arriver en prenant tel type de cellules pour que le corps ceci cela. On s'est plutôt dit est-ce que l'humain en aurait envie. Or, on pense que l'humain en aurait envie. En fait, on s'est dit qu'il y avait sans doute deux ou trois désirs assez forts que l'humain voudrait avoir. L'un d'eux était aussi l'ubiquité, parce qu'on s'en rend compte juste avec un portable, qu'on est à la fois dans l'envie d'être ici et l'envie d'être ailleurs en même temps, et qu'on a une sorte de jubilation. Justement, c'est le moment d'en profiter. Une jubilation à être à deux endroits en même temps, ou en tout cas d'avoir l'illusion qu'on est à deux endroits en même temps. Illusion qui est d'autant plus forte qu'on passe d'un réseau social à un autre et qu'on se dit tiens, à cet endroit j'ai plein d'amis, à l'autre j'en ai plein aussi, c'est super, ma vie elle est super. Et puis du coup on a une espèce de fébrilité, d'excitation que moi j'ai fortement remis en question récemment, mes amis le savent, parce que j'ai cassé mon portable et d'un seul coup je me sentais justement extrêmement handicapé de partout. Parce que j'avais l'impression d'avoir perdu les seuls amis que j'avais déjà.
Ah, c'était vrai cette histoire, je crois que c'était juste pour qu'on discute pas avant.
Non, j'avais vraiment cassé mon portable. Et donc de cette envie d'ubiquité, on a aussi inventé une sorte de règle avec Gwen qui était de dire non seulement ces personnages pourraient être immortels, mais ils pourraient se cloner. Et comme il y avait quelque chose qui nous dérangeait dans cette idée de dire oui mais des clones mais c'est quand même d'autres personnes donc ça va pas tout à fait avec l'ubiquité, on s'est dit ces clones qu'on a pu produire, on peut se fusionner avec eux quand on le choisit et les deux mémoires se fusionnent et donc on a accès à tout ce que le clone a vécu dans, par exemple il allait prendre des vacances aux Seychelles, j'intègre toutes ces sensations de vacances aux Seychelles. ce qui permettait du coup de résoudre en partie la question de mort dont tu parlais. Ouais. Dans cet univers, les personnages peuvent effectivement, techniquement peuvent être tués. Mais comme ils ont des clones qui sont un peu comme on va dire comme un backup, quelque chose qui permettrait de garder la mémoire des autres, finalement le vrai risque qu'un personnage puisse mourir, qu'un homme puisse mourir, il est évoqué dans le récit, mais il est assez, c'est assez pointu, c'est-à-dire qu'il faudrait que non seulement tous les clones aient été détruits en même temps, et que le corps premier soit détruit aussi, c'est-à-dire que c'est comme si je perdais mon ordinateur, toutes mes sauvegardes, etc. Donc dans cet univers-là, ça paraît vraiment quasi impossible. Or, ça s'appelle quand même les derniers jours d'un immortel, donc suspense. Est-ce qu'il ne va pas y avoir quand même quelque chose comme un mort dans cet univers où la mort ne devrait pas exister ?
Alors moi, j'ai trouvé ça génial dans votre bouquin, parce que c'est ce truc-là, vraiment, de se cloner, c'est... Donc pour vous, c'était une intention première, vous avez décidé de le mettre dedans. Pour moi, c'est une conséquence, en fait, parce que dans l'immortalité numérique, c'est naturel de faire ça. C'est facile.
Oui, c'est vrai.
T'as employé le terme backup, c'est exactement ça. Pourquoi un immortel numérique ne se dédoublerait pas pour aller faire autre chose? Il faut inventer un protocole pour qu'il se retrouve, pour refusionner les deux mémoires à la fin. Mais donc moi, je me suis retrouvé forcé à faire ça. C'était pas une intention première, mais je le fais aussi dans mes bouquins.
Par ton sujet le côté informatique et numérique.
Ouais, tout ça, c'est naturel. Ils sont nécessairement, ils vont aller mettre. Alors moi, je mets même. Ben, je crois que vous aussi, d'ailleurs, c'est pas forcément toute la persona de l'immortel qui est dédoublé. On peut mettre une petite partie, donc un petit bout de code, quoi, qui va faire un truc pour toi. Enfin, c'est toi, en fait, mais qui va faire un truc là-bas, puis qui revient, qui le fait. Et Greg Egan, dans La Cité des Permutants, il le fait aussi beaucoup, ça. Il y a plein de réflexions là-dessus sur le dédoublement. Et moi, un des points qui m'intéresse vachement dans l'immortalité aussi, c'est la reproduction, quoi. C'est-à-dire que, on est immortel, mais si on se reproduit, on va être nombreux à la fin. Et donc chez vous, j'ai bien aimé le fait que dans la BD, il y a très peu de gens, en fait. Les paysages sont en général assez épurés. Alors, sauf dans l'astro.
Ça s'appelle de la flemme de dessinateur, ça.
Oh, pardon, excuse-moi.
Non, c'est une intention d'auteur, tu as raison, maintenant que tu le dis.
J'ai essayé de vous aider, là, mais... À part dans l'astroport, où il y a des...
Oui, il fallait quand même bien à un moment donné sortir les doigts du cul, quand même. Non, mais c'est vrai, la question...
Et la question, est-ce que si on est immortel, est-ce qu'il faut qu'on se reproduise ou pas? C'est pas évident du tout, quoi.
Et est-ce que même il y a une envie de laisser quelque chose qui ne serait pas nous? Parce que dans la reproduction, il y a quand même plus ou moins tacitement le symbole de laisser quelqu'un derrière nous. D'ailleurs, on voit bien une espèce d'idée de possessivité sur les enfants, du style « tu feras ça, tu ne feras pas ça ». On a l'air de dire « si t'étais mon mini-moi ». Je serais toi, je, mais sauf que l'enfant n'est pas nous, justement. Donc, effectivement, la question se poserait même carrément d'avoir ou pas un enfant. Là-dessus, on a assez peu abordé le sujet, mais un peu en imaginant que c'est dans cet univers-là, c'est extrêmement codifié le fait d'avoir ou pas un enfant.
Il y a une autorisation de procréer à un moment.
Voilà,
c'est
une
ça.
Autorisation qui est très très rare et rarement donnée. Mais effectivement, on aurait même pu aller plus loin en disant est-ce qu'il y aurait même envie de. Bon, de sexualité, on voit qu'il en reste dans les derniers jours d'un immortel, mais pas forcément tellement de reproduction. Oui, il y a pas mal de scènes. D'ailleurs, je vous engage à les acheter.
très choquante, d'ailleurs.
Un suspense choquant. Incroyable du cul. Ça a l'air d'être un chef-d'œuvre. J'espère que toi aussi, il y a
du cul. Il y en a beaucoup,
dis vite les pages, mon ami.
Et même mon éditeur m'a demandé d'en rajouter. En fait, donc je vais les rajouter. Il y a une scène de cul entre une mortelle et un immortel dans un robot.
Un robot.
Ouais.
Attends, j'essaie de me représenter la scène. Redis la phrase et l'ordre exact dans lequel tu dis que les uns sont dans les autres. Ça nous amène peut-être habilement une transition sur les inconvénients un petit peu de tout ça. Parce que là tu l'évoques déjà un petit peu par cette idée de duplication, etc. Or, on voit que tout ça peut entraîner des limites, enfin des limitations. Si on parle de pure informatique, tout n'est pas possible pour autant. Dans ton cas, quelles ont été soit les limitations de l'univers tel que tu l'as créé, ou simplement des limites dont tu t'es dit « je ne crois pas à l'immortalité sans quelques inconvénients
». Ouais, il paraît, moi, je pense qu'elle m'a dit ça pour me faire plaisir, que ma mère m'a dit que très petit, vers 4-5 ans, je crois, j'avais dit que si on devenait immortel, quoi, si ça devait être chiant, quoi, à la fin. J'y crois pas, je pense que c'est une idée à elle que j'ai repris. Elle était malheureusement pas immortelle. Et donc moi, il y a ce truc là vraiment. Je pense que, et puis chez vous aussi d'ailleurs, si on devient immortel, à un moment c'est chiant, quoi. À un moment, on a fait le tour de la question, quoi. Il y a pas grand chose à faire. Il faut se créer du divertissement, aller voir d'autres choses, genre, mais tout ça, in fine, ça doit être chiant au bout d'un moment, quoi. Et donc moi, mes immortels, ils ont vraiment ce problème là. Et ça vient en deux temps, en fait. D'abord, comme ils sont numériques, on peut leur donner plein de capacités qu'on n'a pas nous. Donc on commence par leur donner beaucoup de mémoire. Puisqu'ils vont vivre beaucoup de choses, donc autant qu'on les laisse se souvenir de tout. Et ça marche pas du tout dans ma conception. C'est que ils finissent par se perdre dans leur propre mémoire. Ils vivent dans un monde virtuel, hein. Ils vivent dans une machine. Ils ont des, tout notre monde est d'abord transposé dans la machine. Ils ont l'équivalent de ce qu'on a là. Ils voient des gens et tout ça. Et puis après, ils ouvrent les possibilités. Donc les gens commencent à changer de forme, de tout ça. Et puis jusqu'à ce que, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Et donc, ils ont en particulier la capacité de fabriquer de l'univers virtuel. Et il y en a qui commencent à se paumer dans leur mémoire. Et donc, à un moment, ils décident d'eux-mêmes de dire, bon, ok, on va arrêter ça, on va brider nos mémoires, on va mettre un maximum de 100 ans équivalent humain en réalité, en réalisme moyen. J'invente des termes comme ça pour faire joli. Hein. Et donc ça, c'est la première chose. Ils commencent par limiter leur mémoire. Et deuxième chose, à un moment, il y en a qui en ont vraiment trop marre, quoi. Et qui déprime, et leur déprime est même contagieuse, c'est-à-dire qu'avoir dans la société des immortels quelqu'un qui déprime, ça te renvoie à ta propre immortalité, et le potentiel que tu déprimes devient assez important. Et alors là, ils demandent à leur créateur, entre guillemets, de leur autoriser le suicide. Et donc, on leur autorise le suicide, donc il y en a qui partent, c'est un peu aussi comme dans votre BD, il y a un peu ça aussi, je crois, hein, donc ils ont le droit de se suicider. Et alors, pour revenir, pour fermer la boucle sur la reproduction, et ce n'est que à ce moment-là qu'ils se disent, ah bah ok, mais si on peut se suicider, bah maintenant il faut qu'on se reproduise. Forcément, le problème, le fait qu'on n'avait plus besoin de reproduction parce qu'on était immortel, il devient caduque si on redevient mortel d'une certaine façon. Donc, en fait, les immortels, ils redemandent la mortalité en fait. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils se disent, bon bah il va falloir quand même qu'on trouve un moyen de se reproduire. Alors là, en reproduction numérique, c'est super facile. À la limite, si on a vraiment tellement bien compris l'esprit humain qu'on est capable de le transférer dans un ordinateur, bah a priori, on doit pouvoir le créer de toutes pièces directement. Pas sûr, hein, faut réfléchir chez vous ce soir. Si... Mais c'est pas évident. Donc c'est une possibilité. A priori, ils pourraient peut-être réussir à créer de toutes pièces un enfant, quoi. Et en fait, c'est pas ça qu'ils font, mais je vous dis pas ce qu'ils font parce que ça, ce serait un vrai spoiler.
Pourquoi ils autorisent ou n'autorisent pas ?
C'est bien.
Oui.
Alors moi, Raphaël, il se trouve que j'ai lu tes livres et là, il y a un truc qui m'avait complètement échappé, c'est dans ce que tu viens de dire. Ils demandent à leur créateur de leur autoriser le suicide. Donc tout d'un coup, je réalise que le passage à l'immortalité, ça s'est fait au prix de quelque chose, un semblant de libre arbitre, ou du moins une partie de leur libre arbitre qui leur a été enlevée. Est-ce que c'est toujours un marché où on perd quelque chose, quoi ? Est-ce que c'est toujours ok, je deviens, en tout cas dans la littérature, ou est-ce qu'on imagine toujours l'immortalité contre une perte de quelque chose ?
Ouais. Alors, en fait, si tu les as lus, t'en sais beaucoup plus que tout le monde dans la salle. En fait, ils demandent à leur créateur de faire ça. En fait, ils peuvent le faire tout seuls, comme tu le sais, je pense. Ils pourraient le faire tout seuls, en fait, parce qu'ils sont en train de baiser la gueule, comme je disais tout à l'heure, à leur créateur. En fait, leur créateur, c'est eux-mêmes. Hein, mais... Et donc, sur ce que tu viens de dire, en fait, je vous ai un peu menti. Je vous ai un peu menti, effectivement. Cela dit, le prix à payer, alors pour l'immortalité numérique, il y a un prix énorme à payer, c'est que t'es dans une machine, quoi. Et que, bah voilà, ta machine, il faut qu'elle ait de l'électricité. T'es dans la machine, t'as pas forcément le contrôle des moyens de production d'électricité sur la planète et des choses comme ça. Donc c'est un autre. Je fais un peu un virage par rapport à ce que tu demandais, mais donc ça c'est le gros prix à payer pour l'immortalité numérique. C'est ça, c'est que tu contrôles. C'est pas facile hein, pour un immortel numérique de contrôler la prise de courant, quoi.
Mais ça pose une question de fond qui est celle d'un auteur de science-fiction versus peut-être un transhumaniste. Un auteur de science-fiction, du moins ceux qui ne sont pas transhumanistes, parce qu'on peut être les deux, a tendance, je crois, à envisager les choses d'une manière, avec une façon de voir les choses qui est un peu thermodynamique, du style ce qu'on prend quelque part est à payer quelque part, pas dans un sens de morale ou d'éthique, quoique ça a un impact, mais plus en termes de, il y a une finitude des choses, et ce qu'on prend quelque part, on ne peut pas le remplacer juste de manière égale, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, dans l'univers, on voit que ça fonctionne pas comme ça en termes juste physiques. Donc, je crois qu'en tant qu'auteur, on peut pas s'empêcher de se dire, ok, où est le marché de dupe si on a beaucoup quelque chose quelque part? Alors, assez typiquement, quand je parle du téléphone portable, je crois qu'on s'en rend compte un peu, à savoir que le marché de dupe, c'est qu'on a une sensation d'ubiquité absolue et qu'en réalité, on réduit comme peau de chagrin notre présence au monde là où on est. C'est-à-dire qu'en fait, on se disperse un petit peu. Éventuellement, on gagne parce qu'effectivement, on a des amis à l'autre bout de la planète et je prétends pas que c'est mauvais dans l'absolu, mais on perd de l'autre côté. Donc c'est ce qui fait que dans le cas de, des derniers jours d'un immortel, peut-être plus encore qu'en termes de est-ce que c'est faisable, pas faisable, on s'est dit avec Gwen, ça serait quand même bien qu'on réfléchisse au coût de cette immortalité. Et effectivement, c'est beaucoup sur la mémoire que ça s'est posé. On s'est dit, ben si comme l'attention humaine, elle n'est pas infinie, la mémoire, elle peut l'être, mais l'attention humaine n'est pas infinie, et ben plus on est immortel, plus on oublie les vieux souvenirs. Ce qui, l'air de rien, est un coup, et à un moment donné, le personnage d'Elijah, qui est le personnage principal, réalise qu'il est en train d'oublier un de ses meilleurs amis et qu'il s'en fout. Mais ce qui est bizarre, ce qui est étonnant dans cette phrase, c'est qu'on pourrait dire, bah, s'il s'en fout, c'est pas grave. Mais il y voit un risque majeur de perte d'humanité. Il se dit, si j'en suis au point de ne même pas avoir quoi que ce soit à foutre de la perte de mon meilleur ami, c'est que je suis en train de me perdre moi. Un transhumaniste ne va pas voir les choses de la même manière. Il va se dire, on peut s'améliorer, et c'est le sens de l'histoire. C'est d'ailleurs une vision très progressiste des choses, en disant, après tout, je serai immortel, et c'est du plus. Et d'ailleurs, c'est là qu'il y a un vrai débat philosophique qu'on peut retrouver avec les pro-croissance et les pro-décroissance, actuellement en termes écologiques et économiques, à savoir de se dire, est-ce qu'il y a une finitude des choses, ou est-ce qu'au contraire, c'est à l'infini ? À certains égards, le transhumaniste pense qu'on va quand même trouver encore des ressources, peut-être pas infinie, mais encore très grande, avec tel ou tel type d'énergie qui permettrait d'aller encore plus loin, de gagner du temps, et puis finalement d'en finir avec une forme qui aurait été une sorte de chrysalide humaine, des petits corps tout pourris, et puis d'un seul coup on est dans du silicone, c'est super propre. Il y a une notion un peu hygiéniste, hein, d'ailleurs, dans le transhumanisme, tout sera bien propre, on n'aura plus de trou du cul, parce que à choisir, autant faire des corps vraiment parfaits, et puis péter, c'est pas très parfait. Alors j'aimerais bien un jour avoir un vrai débat sur les flatulences et le transhumanisme, pour voir est-ce qu'il y a des hippies. Quoi qu'en même temps, les émoticônes sont parfois un peu l'équivalent de ça.
Je te promets d'en mettre dans mon prochain roman.
Oui, je te remercie. Mais une autre question qui est super intéressante, et on en revient à cette notion très humaine de Elijah qui voudrait ne pas oublier son ami. Elle revient à l'idée de la dépression, parce qu'effectivement, dans les derniers jours, on parle beaucoup de ça, le fait qu'il y a une forme de lassitude qui s'empare de ces immortels au bout d'un certain temps. Alors il y en a qui choisissent de se déconnecter, ils font une cérémonie comme on fait une cérémonie de mariage, ils font leur funérailles, un grand repas, et puis ils meurent. Mais on aurait pu aussi imaginer ce qu'on
j'aime bien comme ils meurent d'ailleurs, la façon dont ils ont de mourir,
exemple qui est donné, effectivement. Ouais, oui, parce que c'est très...
Ils se font bouffer par les lions du Serengeti, quoi. Ils retournent à la nature.
C'est ça, c'est pour montrer qu'effectivement ils veulent que tout revienne à la nature, au cycle des choses. Mais une question qu'on n'a pas abordée dans le roman graphique, mais qui serait assez intéressante, c'est qu'on pourrait imaginer si l'humain est améliorable, en tout cas dans un sens modifiable profondément, qu'on puisse même affecter le désir. Et ça on pourrait imaginer qu'on code différemment un gène qui fait que, ouais, c'est super d'être immortel, et non seulement c'est super, mais je m'en lasserai jamais. Et à la fois on se dit, mais oula, on touche à quelque chose qui est important, c'est le désir humain qui est censé être un peu fragile. Mais ça me fait penser à ce débat qu'il y a eu sur ce qu'on a appelé le Viagra féminin, parce qu'il avait une différence de nature totale avec le Viagra dit masculin, et c'était assez passionnant. Parce que le Viagra masculin, il est là pour aider à l'érection quand il y a du désir. Le Viagra féminin tel qu'il a été présenté est là pour aider à avoir du désir. Ce qui est quand même assez fou. Parce que du coup, on se dit, donc, j'ai pas envie, mais je vais prendre le truc qui va me donner envie. Donc, il y a une mise en abîme qui est assez sensationnelle, parce que ça voudrait dire, du coup, ça pose plein de questions sociales, hein, d'ailleurs, sur les rapports hommes-femmes, outre d'éventuelles différences chimiques, mais qui consistera à dire, ah oui, donc ça veut dire que la plupart des femmes qui auraient besoin de ce truc, ça serait pour avoir envie, pour faire plaisir à, peut-être. Donc le relais du plaisir, il passe par des choses beaucoup plus sociales, c'est, tiens, j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un, donc je vais avoir du désir mais surtout, ce qui est marrant dans cette mise en abîme, c'est, donc il me faudrait une pilule pour avoir envie de la pilule, qui me donnerait peut-être envie de la pilule.
C'est la combo gagnante, c'est une pilule rose puis une bleue.
C'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, ça veut dire, donc en fait, donc là, la question de libre arbitre que tu évoquais, elle est très très présente. C'est, si on commence à pouvoir décider de ce que les gens désirons, ce qui est censé être un des ressorts les plus personnels qu'on puisse avoir, ça nous ramène vraiment à une espèce de gros sac d'hormones, ce qu'on est un peu. C'est très humiliant en tant qu'être humain de se dire que des fois, telle expérience chimique, telle expérience d'un type qui a pris une balle dans la tête, d'un seul coup pense différemment les choses, on se dit, ah mais on est ça, quoi. On est quelque chose de un sac d'os avec des muscles et puis des organes et puis des hormones, et si on modifie un truc avec un petit bouton, d'un seul coup, on est croyant, on n'est pas croyant, un tel va avoir une vie de ceci, une autre une vie de cela, et on se rend compte que le libre arbitre, il ne reste pas énormément de place pour ça. Bon, je crois à quelque chose d'un petit peu plus libre, enfin, quand je vais bien, Tu me redonnes ma petite pilule bleue, c'est celle qui me donnait envie de la conférence.
Est-ce que tu veux que je revienne sur l'histoire des IP, là?
Non, non, t'as raison. Non, mais je peux. J'ai envie de mourir.
Non, parce que c'est marrant, parce que je suis en train d'écrire le troisième, là, et j'ai un dialogue à un moment entre un immortel, donc un homme qui est devenu immortel en se passant à la matrice, et puis une machine, quoi, une intelligence artificielle standard. Et l'intelligence artificielle, elle, quand elle arrive dans le monde virtuel des hommes, elle le connaît pas. Elle est très surprise qu'ils ont gardé des trucs comme bouffer, l'odorat. Elle, c'est une tablette, quoi. Donc, elle a la vision Éloui, en gros, comme sens. Et c'est tout. C'est une intelligence derrière dont les stimuli sont uniquement visuels et auditifs, a priori. Puis peut-être gyroscopiques, si tu veux. Mais, donc, voilà. Et quand elle arrive dans la maison, elle est vachement surprise de dire, mais vous aviez plus besoin de manger. Vous deveniez mortel dans une matrice. Vous avez plus besoin de manger. Et néanmoins, vous avez gardé le goût, l'odorat et les choses comme ça. Donc, je te promets, je peux mettre un IP dans le.
Ça me ferait tellement plaisir. Et ainsi qu'à ton public.
Oui, oui, je pense. Ouais. J'ai rien signé. Hein. Mais il y a la question de la souffrance qui est intéressante. Donc, moi, j'ai évidemment, parce que j'avais pas trop le. Enfin, je me suis dit, en passant dans la matrice, ils vont vivre une souffrance psychologique forte. Et donc, j'ai aboli toute souffrance physique en fait. Mais mes immortels, ils souffrent pas physiquement dans la matrice. Ils mangent, mais ils n'ont pas la. Ils ont pas la. Les vôtres, ils gardent une souffrance physique.
Alors, là, je distinguerais ouais. les deux œuvres, Le Dernier Jour d'un Immortel et Seul. Dans Les Derniers Jours d'un Immortel, c'est vrai que la question de la souffrance physique n'est pas tellement abordée, je crois pas. On part du principe, soit en passant, la façon dont on a expliqué qu'il soit immortel, c'est des ondes vibratoires. C'est-à-dire qu'on ne dit pas ce que
ouais,
c'est.
J'ai vu ça. Ouais.
Ils prennent des sortes de douches vibratoires et puis, en gros, ils sont guéris. S'il y avait un problème, ils peuvent se dédoubler, ne pas se dédoubler. On est parti sur une idée un peu comme la théorie des cordes, quelque chose comme une vibration qui permettrait de remettre en place les corps ou non. Donc on pourrait imaginer, puisque tu poses la question, mais je crois qu'on a dû l'aborder. Ils sont sensibles,
ils
mais...
Ils sont sensibles, donc ils...
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a... De ben, toute façon, qui dit effectivement...
Ah mais si, mais même dès le début, quand il se fait tuer, c'est violent. Et,
oui, et d'ailleurs, il dit que c'était pas agréable.
Et c'est pas agréable, ouais, effectivement.
Parce qu'il le dit, il souffre. Il a le souvenir. En fait, il y a le moment, c'est intéressant d'ailleurs, où il fusionne avec la mémoire de son clone qui a été assassiné. Et donc, on imagine un peu le moment où on va un peu comme aller chez le dentiste, quoi. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'il a vécu. Et puis, on sent qu'il ressort, il est un petit peu pas très bien. Donc oui, effectivement, il souffre. De toute façon, là encore, un peu comme en thermodynamique, s'il y a sensibilité, il y a souffrance possible. Et effectivement, ça peut faire partie des vraies questions de fond du désir de l'immortalité. Parce qu'on sait très bien qu'effectivement, quand on souffre, c'est un des moments de la vie où un être humain peut vouloir mourir et le vouloir même énormément. Dans le cas de Seul, j'aborde ça de manière atténuée parce qu'il ne s'agirait pas que je dise à un enfant, tu sais, si tu souffrais pour toujours, ce serait dur, tu ne crois pas? Qu'est-ce que tu en penses? Réfléchis longtemps à cette question. Mais cela dit, je suis sûr qu'ils aimeraient ça, ces petits salopios. Plus je leur fais des trucs traumatisants avec les BD, hein, je le précise, plus derrière ils disent, ah, j'ai bien aimé la fois où j'ai fait des cauchemars. C'est bien. Mais si on va jusqu'au bout de ce qui est Seul, il y a quelque chose qui pourrait être assez angoissant dans cette idée que la souffrance peut ne pas avoir de fin. C'est-à-dire qu'effectivement, on ressouffre, on a mal, on meurt et puis ça revient. Après, c'est atténué parce qu'une fois de plus, je mets ça dans un tout qui est celui de la vie de tous les jours. Seul ne fait heureusement parler que de la vie de tous les jours. Or, on voit, c'est quelque chose qu'on avait abordé dans un autre bouquin qui s'appelait Samedi et Dimanche, où il y avait le paradis des cailloux. On disait à un moment donné, ben voilà, si à un moment donné on était vraiment complètement heureux à l'infini du bonheur, on serait peut-être à peu près aussi conscient qu'un caillou. Parce que le caillou, il lui arrive plus rien. Il y a plus d'histoire qui peut lui arriver. Or, l'historique d'un personnage, c'est aussi l'irruption de mal-être, de souffrance, de bonheur. Pour qu'il y ait un peu du mouvement, c'est l'expérience qu'on peut faire quand on bouge plus du tout, par exemple dans son lit le matin. Si on bouge plus du tout, il y a plus d'histoire, il y a plus de récit, parce que finalement il y a plus de sensation. Si on commence à bouger, ça sera soit agréable, soit désagréable. Je dois me lever pour aller travailler, c'est pas forcément agréable, mais j'aime bien être dans mes draps, c'est agréable. Mais il faut du mouvement, et prendre le risque de ce mouvement, c'est un risque, voilà. Et effectivement, on pourrait imaginer, et d'ailleurs je suis persuadé que ce sont des sujets que malheureusement des tortionnaires potassent. C'est la notion de fait de ressenti de la douleur et dans la durée, de manière à ce qu'on ait l'impression, et je crois que ça avait été abordé dans une nouvelle de Clive Barker, me semble-t-il, sur un univers virtuel type Matrix ou comme celui que tu décris, mais de torture, qui permettrait de ressentir un sentiment, enfin une souffrance énormissime sur une durée la plus longue possible, mais qu'on pourrait du coup imaginer comme totale. Et cette notion d'ailleurs, elle est très présente dans l'iconographie médiévale de l'enfer et du paradis. C'est d'ailleurs ce qui a énormément choqué au fur et à mesure que ces univers post-mortem se sont développés dans l'imaginaire humain. Ce qui est assez intéressant, c'est de faire l'historique de cette création. Au début, c'était la vie après la mort, mais c'est pas hyper clair. Puis, il y a quand même l'idée qu'il y a un peu un paradis, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une notion de chute, quoi. Est-ce que c'est du bon côté ou du mauvais? Il y a l'enfer qui apparaît. Mais ça choquait plein de gens qui disaient, mais attends, ça voudrait dire qu'on serait dans les flammes de l'enfer pour toujours.
Ouais, souffrance éternelle.
Souffrance éternelle. Et ça a quand même fait flipper pas mal de monde, ce qui était pratique, d'un point de vue, de pouvoir terrien de la part des fois de l'Église qui disait si vous faites pas gaffe, voilà ce qui vous pend au nez. Mais ça a quand même amené du coup à des réflexions sur peut-être la possibilité d'une espèce de truc de seuil de rattrapage qui serait le purgatoire. Puis petit à petit on commence à dire, puis peut-être même que l'enfer, on n'y resterait pas toujours, jusqu'à ce que les croyants de notre époque, ceux qui continuent à croire à cette forme-là, en arrivent éventuellement même à remettre en question la notion même possible d'un enfer. Si ceux qui croient à un dieu d'amour, c'est difficile d'imaginer un dieu d'amour qui torture à l'infini. Mais c'est vrai qu'elle en vient à cette notion-là qui serait un des tout petits bémols de l'immortalité, c'est souffrir pour toujours. On n'a pas très envie de ça, quoi.
Oui, on peut prendre quelques questions. On a le temps.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien ?
Oui.
Je me demandais, est-ce qu'on parle de l'immortalité comme une expérience hyper subjective, mais pourquoi pas être immortel pour le bien commun et se dire, je vais être immortel pour peut-être voyager dans l'espace, faire des voyages de milliards d'années, tout ça, pour peut-être pouvoir sauver les gens qui ne sont pas aussi. Parce que là, c'est plutôt être immortel pour moi, un choix assez égoïste, mais ce qu'il y a aussi l'immortalité pour aider les autres.
Et est-ce que tout le monde doit être immortel? Ça, c'est une question que toi, tu poses dans tes romans.
Alors, ça répond pas exactement à... Pour moi, une des grosses questions, c'est si un jour on devient immortel, est-ce qu'on le sera tous ou pas? Est-ce que ce sera réservé à des happy few on peut imaginer plein de choses dans le monde actuel qui laissent penser que ce sera sans doute ça. Ou est-ce qu'on sera tous immortels? Ça change complètement la donne. Et moi, j'aime bien l'hypothèse narrative. Hein, ben, je préférerais dans la vraie vie qu'on le soit tous, mais justement du fait qu'on est peu à être immortels. Et en général, quand les gens qui ont exploré ça, ils arrivent à la conclusion que c'est pour faire plutôt le mal, quoi. C'est-à-dire que si on est peu à être immortel, qu'est-ce qu'on va faire des mortels, quoi? Ils vont nous faire chier. Hein.
Qu'est-ce que tu penses de la théorie du ruissellement, dernièrement appelée théorie du premier de cordée, qu'on va nous balancer à la gueule dès qu'il y aura l'immortalité. Alors, je le suis, pas vous, mais ça va ruisseler. Hein.
T'as lu dans mon esprit. C'est exactement ça. Et souvent, les auteurs de SF, quand ils envisagent l'hypothèse peu d'immortels, ça finit mal, quoi. Les immortels asservissent les mortels, des choses comme ça. Et il y a une exception qui, pour moi, était assez fondatrice, en fait, qui va vous surprendre. C'est le grand auteur de science-fiction qui s'appelle Michel Houellebecq, vous le connaissez, qui, dans le dernier chapitre des Particules élémentaires, donc le Particules élémentaires, c'est un bouquin à la Houellebecq classique, hein, très ancré dans le présent, très glauque. Et donc un de ses héros, sans trop le savoir, il invente la fin du vieillissement. Et dans son dernier chapitre, il explique que grâce à ça, donc une nouvelle race d'immortels est créée. Donc c'est nos successeurs. Et ce chapitre, je le trouve magistral, moi. Et il dit que l'humanité s'éteint doucement, c'est-à-dire que nous, ayant créé nos successeurs immortels, on arrête doucement, ça prend du temps, mais on arrête doucement de se reproduire et notre caste, si je puis dire, disparaît au profit de notre création. Et ça, c'est un mécanisme narratif qui est très rare, en fait, je trouve, et qui est très beau. Et donc ça répond pas exactement à ta question, mais ce serait donc des immortels qui quelque part, c'est un peu paradisiaque, quoi. C'est un peu, ils font plutôt le bien, enfin pas le, la fin est plutôt positive, en fait, totale symbiose entre les mortels et les immortels. Et ouais. Très, très
ou
belle
on
chose.
Pourrait imaginer, pour rebondir sur ce que tu disais, que ce soit une charge à porter, c'est-à-dire que quelqu'un se tape l'immortalité parce qu'il faut bien que quelqu'un le vive, mais que ce soit peut-être quasi insupportable pour cet être humain et qu'il le fasse pour le bien commun. Pourquoi pas? Je plaisantais en disant la théorie du ruissellement parce que ça se trouve c'est comme ça que ça serait présenté, mais ça se trouve ce serait vraiment très, peut-être qu'être premier de cordée c'est vraiment très dur. Je ne suis pas Emmanuel Macron, je ne sais pas le poids qu'il porte sur ses épaules.
On m'aurait menti.
Mais sans doute qu'il y a un poids. Je veux dire, par là, effectivement, je peux ironiser, mais il y a sans doute un poids pour quelqu'un qui serait un leader à dire je suis au courant d'un certain nombre de choses et pourquoi peut-être l'immortalité ferait partie de ce poids. Maintenant, c'est vrai que je ne sais pas si on le voit en termes dans les récits de science-fiction, ce que tu évoques, on le voit beaucoup avec les récits de cryogénisation où on ralentit. Maintenant, j'ai pas tellement en tête. Et peut-être tu vas l'écrire du coup. J'ai pas tellement en tête quelqu'un qui serait immortel pour une cause commune, comme un héros, quoi. Et pas les autres, mais ça doit exister. Peut-être que vous connaissez.
Mais en fait, la question que tu posais, c'est immortel pourquoi ? Et en fait, je pense qu'on la pose rarement cette question-là parce que devenir immortel, c'est un but en soi. Et donc c'est vachement intéressant, ouais, je pense. Ça paraît tellement difficile d'être immortel que la question centrale quand on parle d'immortalité, c'est essentiellement devenir immortel, effectivement.
Comme si ça allait de soi, en fait.
Et ce qu'on fait de cette immortalité, ça vient après, quoi, en fait. Et voilà.
Un peu plus nazi, hein, tu peux le dire. À leurs yeux, effectivement, eux se sentent une responsabilité. Effectivement, qui consisterait à dire on a cette responsabilité, cette charge, et ils le vivent un peu aussi comme une charge, mais aussi un petit peu comme, de toute façon, on est dans l'humain, et donc effectivement, parfois faire partie de ceux qui guident les autres, c'est dur, puis à la fois ils en ont les avantages aussi. Donc effectivement, dans Sol, c'est assez présent, avec en plus cette notion que ça se trouve, c'est depuis des siècles et des siècles que ça se prolonge.
D'autres questions ?
Ici.
Il y en a plein, en fait.
Oui, en fait. Il reste que 10 minutes, c'est bon, c'est exactement comme on avait dit, ils pourront pas les poser.
Oui. Est-ce qu'une façon de devenir éternel, ce serait pas de ne pas croire à la mort ?
On s'est convaincu là.
Non, mais il y a une scène, je sais pas si vous vous souvenez, dans l'Armée des Ombres, où Lino Ventura, donc, qui est résistant, est prisonnier des nazis et va se faire fusiller. Donc il est dans sa cellule et il est en train de penser. Et il dit, si jusqu'à la dernière seconde, je crois que je suis en vie, je ne mourrai jamais.
Ouais, mais ça marche jusqu'au moment où tu meurs.
Ce qui revient à ce que j'avais dit sur Sol, c'est qu'effectivement, quelque part, pendant cet instant-là, il vit une seconde d'éternité. Après, ça serait intéressant d'aller au-delà, de faire effectivement l'Armée des Ombres version SF, et qu'au moment où on le réalise, comme une espèce de prise de conscience, comme dans la Matrice, en fait, on fait genre, mais c'est des conneries ce truc. Et puis, et on se réveille et on s'aperçoit qu'on est immortel parce qu'on a atteint un degré de conscience, ce qui est assez proche de sagesse asiatique aussi, hein, mais là encore, d'habitude, en termes de sagesse, c'est une perception du monde, c'est pas une réelle immortalité.
C'est une espèce d'immortalité psychologique un peu, j'aime bien l'idée de te dire que dans ta tête, tu peux être immortel, quoi.
C'est ça. Il y avait une question ici ?
Oui, quand on commence à parler d'immortalité, est-ce qu'on se pose encore la question du genre, pour le coup ?
Ah, excellente question.
Alors, est-ce que ça a encore du sens, en fait, de parler de genre
sur cette question,
on
a apporté la même réponse aussi. Vas-y.
Du cul. Dans les derniers jours d'un immortel, on aborde le fait qu'à partir du moment où il y a possibilité d'altérer, de changer, de modifier le corps, c'est dans tous les domaines. C'est non seulement sur l'âge, la durée, etc., mais aussi le sexe. Et comme la question que ça nous posait vis-à-vis de notre public, c'était vraiment une question de réception de l'œuvre, parce qu'on doit aussi penser en ces termes-là, c'était de se dire, si on va trop loin dans toutes les modifications possibles, on va complètement... laisser le lecteur de côté qui arrivera plus du tout à se projeter dans cet avenir-là, parce que c'est une vraie question qu'on se pose quand on fait de la SF, c'est de se dire qui nous lit. Les gens qui nous lisent, c'est les gens du 21e siècle. Or, on va parler du 23e, 25e siècle, qu'importe. Or, si un romain de la Rome antique voyait ce qu'on est maintenant, je crois qu'il comprendrait rien à ce qu'il découvrait, parce qu'on serait dans vraiment un autre monde. Donc avec Gwen, une des grandes questions qu'on se posait, c'est jusqu'où on peut pousser les curseurs, parce qu'on pense que ce serait possible, mais où est-ce qu'on les arrête pour permettre au lecteur d'entrer dans l'histoire. Et on a un peu rusé en imaginant que Elijah, pour des raisons XY, il bug, il peut pas complètement se transformer autant qu'il le voudrait, ce qui amène à des scènes d'ailleurs un petit peu ambiguës sur lesquelles je ne m'attarderai pas trop pour pas que vous me jetiez des pierres, parce que c'est sur moi que ça tomberait et pas sur Gwen, alors qu'il est bien aussi pervers que moi.
Où
effectivement on laisse entendre qu'à partir du moment où on peut changer complètement de corps, toutes les perversités possibles et imaginables sont envisageables, sauf que dans cet univers là de fait, ce serait pas des perversités, ce serait du jeu de rôle, et on le voit bien dans le SM ou les choses comme ça, enfin pour ceux qui le pratiquent.
Je suis sûr qu'aux
Utopia, là, avec le cosplay, on va pas me la faire, hein. Bien sûr que c'est un jeu de rôle.
Cosplay, c'est du SM infantile un peu. Hein.
Ça dépend des sessions de cosplay. On en parlera après. Il faut que je t'amène à
un
congrès de furry et on va en reparler. Mais en fait, c'est une sorte de jeu de rôle. On pourrait tout à fait imaginer en SM de dire à un moment donné, je suis soumis, je suis dominant, je suis ce que j'ai envie d'être à l'instant T. Mais si on pouvait changer de corps, on pourrait le faire aussi. Quand je, dans ma glorieuse époque où je faisais du jeu de rôle, j'adorais interpréter des personnages féminins en me disant, tiens, comment est-ce que j'interpréterais ce personnage? Donc oui, la question se pose de pouvoir changer de sexe, mais lié à ça, il y a deux questions qui sont liées, je pense. C'est la question du plaisir éventuel, donc d'un fantasme sexuel autour de ça, et la question de la reproduction aussi, qui ne se pose pas tout à fait de la même manière. Et donc là, on revient un peu sur ces thématiques, c'est que ça serait sans doute très subtilement lié à la question de la reproduction. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que la sexualité actuellement, quand elle est jouée, quand elle est érotique, elle est décorrélée de la question de la reproduction.
T'étais crédible quand tu jouais des femmes ou pas? Non, je rebondis juste un tout petit peu là-dessus parce que je suis obligé. La première fois que j'ai écrit sur mon monde d'immortel, c'était dans un atelier d'écriture dans lequel une des contraintes était qu'on ne puisse pas reconnaître le genre des protagonistes. Et donc c'était un immortel qui s'adressait à un lecteur ou à une lectrice. Grammaticalement, tu ne pouvais pas savoir le genre des deux personnages. Et à un moment, l'immortel lui disait qu'initialement, il était du sexe opposé au tien. Donc si c'est toi qui lis, le personnage était une femme, et si c'est toi qui lis, le personnage était un homme. Et donc précisément, j'avais rendu mes immortels complètement transgenres. Il faisait, enfin même, je sais pas, faut inventer un nouveau mot. Il pouvait changer de genre et puis même en inventer un autre à la limite. Quoi.
Les dernières questions m'ont fait penser immédiatement à quelqu'un que tout le monde connaît ici.
On balance pas des noms là.
L'immortalité, il connaît pas mal. Il est altruiste. Il ne travaille pas que pour lui-même. Changer de genre, il est au-delà de ça. C'est le docteur. La question à toutes les réponses, c'est lui.
Toi, tu commences les conférences et tu les termines.
Souvent.
D'une manière qui est assez puissante. Sauf qu'elle n'est peut-être pas terminée parce que je crois qu'il y avait d'autres questions.
Bien joué.
Ah oui, il y a un micro déjà. Ouais.
Il n'est peut-être pas éternel non plus.
Ouais. Oui, de toute façon, on est d'accord. Pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu le début de la question, c'est est-ce que c'est une vraie immortalité ou de toute façon, elle ne serait pas temporelle du fait que l'univers a une fin.
Oui.
Ça, c'est une ligne. Moi, je me suis retrouvé une fois dans un faux procès contre le transhumanisme. C'était un espèce d'exercice de style. Et j'étais un patron de la Ligue transhumaniste française, je ne sais plus comment il s'appelait. Il disait, non, mais c'est pas grave le transhumanisme, l'immortalité, parce que de toute façon, l'univers a une fin. Bon. Ok.
Mais on commence à travailler à la possibilité que ça soit pas le cas.
Il faut bosser sur l'immortalité de l'univers.
Grâce à Google, qui. Oui, c'est ça. Ça sera l'étape suivante.
Mais donc c'est vrai in fine, mais la différence d'échelle de temps est tellement grande que je pense qu'on peut se passer en premier ordre de cette question-là, quoi. Et en plus, dans mes machines, en plus, on accélère la cadence pour se mettre à l'abri. De débrancher la prise de courant d'un astéroïde qui tombe sur la Terre et qui fait qu'il n'y a plus d'électricité, des choses comme ça. Donc,
Il y en avait une là-bas. Est-ce que le micro...
Ça va peut-être même être la dernière, je crois. Il est 58.
Bonjour. Je me demandais si, en étant immortel, on peut évoluer, puisque la reproduction justement permet justement d'évoluer en fait, c'est-à-dire de développer certaines parties du corps ou du coup l'immortalité, vu qu'il n'y a plus de reproduction, comment on pourrait évoluer? Ou est-ce qu'on ne stagnerait pas justement en être humain?
Ça dépend des protocoles, hein. C'est-à-dire dans un ordinateur, tu peux a priori rajouter des lignes de code, donc tu pourrais inventer un protocole qui fait que les immortels sont autorisés à évoluer d'une façon indéfinie. Donc tu pourrais, narrativement, tu peux utiliser si ça t'intéresse cette chose-là. Au niveau biologique, on peut peut-être inventer aussi des trucs.
En fait, c'est vrai que ce que tu évoques, c'est l'éruption aussi du hasard. D'ailleurs, dans l'évolution, il y a de ça. Hein, c'est que d'une génération à une autre, s'il y a une mutation accidentelle, du moins si on est sur la théorie darwinienne, s'il y a une mutation accidentelle, ça va pouvoir apporter une forme de hasard. On pourrait imaginer, si c'est une matrice, qu'il y a un code qui introduise du hasard pour voir si ça améliore pas le process. Dans les derniers jours d'un immortel, on a évoqué une espèce alien qui est évoqué dans un cas dans un amphithéâtre par le héros qui est aussi un peu prof dont j'ai pas réussi à la pousser très loin parce qu'on voulait juste l'aborder un tout petit peu. Ça serait un individu unique représentant de son espèce et qui crée lui-même tout son univers au fur et à mesure. Il construit des sortes de bâtiments. Puis en fait, il est le seul représentant de son espèce. Mais ça posait une vraie question, c'est est-ce qu'il aurait pu en réalité acquérir la forme d'intelligence qu'on lui a prêtée dans le récit. On l'aborde comme une espèce de métaphore d'une sorte d'immense solitude, parce que finalement il est tout seul cet être-là. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer un être complètement seul qui apprend par lui-même, qui évolue par lui-même avec ses phénomènes d'irruption du hasard et de progression de l'intelligence? Fondamentalement, j'y crois peu, mais parce que spontanément je ne suis pas habitué à ça. Maintenant, dans l'absolu, ça serait hyper intéressant d'aller au-delà de ça et d'imaginer une sorte de stagnation en réalité de ces individus-là, et j'ai l'impression qu'il faut qu'on arrête. Oui, alors cet après-midi je serai en dédicace pour ma part, je sais pas si
c'est et moi c'est maintenant, donc si vous voulez continuer la discussion à la librairie
et merci d'être venus si nombreux et nombreuses. Beaucoup.